Je crois qu'il n'y a pas d'enfants qui vont à les écoles du dimanche aujourd'hui. Non, on me fait un grand signe. Ça veut dire non dans toutes les langues, ça. Alors, nous sommes continuons nos méditations de Noël dans Marc. Tâche difficile, on l'a dit. Hein. Mais nous arrivons à une parabole dont on a parlé la semaine passée. Ça, c'est pas la semaine passée, mercredi. Mercredi, on a fait la parabole de la semence et du grain de moutarde. Et là, ce sera la parabole de la lampe dans la version que nous donne Marc. Alors, c'est Marc, chapitre 4, versets 21 à 25. Il leur disait encore, « Est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas sur le chandelier qu'on la met? Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez, on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Seigneur, ta parole est sainte, que nous ayons des oreilles attentives pour l'entendre et la mettre en pratique. Amen. Alors la parabole ressemble à une autre qu'on connaît un peu mieux. C'est celle qui clôt le sermon sur la montagne, les chapitres 5. C'est pas celle qui clôt le sermon sur la montagne, mais celle qui clôt les béatitudes hein, dans le chapitre 5 de Matthieu. Et Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, après avoir dit « Heureux ceux qui sont pauvres dans leur cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Et il ajoute « Votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux, ils pourront glorifier votre Père qui est dans les cieux. » C'est Matthieu 5, verset 16. Alors le danger pour la lumière, c'est qu'elle soit cachée. Et l'accent est mis donc sur les actes, hein, sur nos paroles, hein, sur ce que les gens voient plutôt que sur ce qu'ils entendent. Alors on a souvent interprété ces paroles de Jésus en Matthieu, hein, 5, verset 16, comme une exhortation à montrer notre foi, à vaincre nos timidités, à vaincre nos peurs, pour laisser briller l'Évangile, l'Évangile qui est dans notre cœur, mais le laisser briller dans notre façon d'agir, de vivre et de parler, à travers toute notre vie. Donc. Et je pense que ça reste une lecture possible, bien sûr. Mais si on arrive donc à cet Évangile de Marc, eh bien, l'insistance de Jésus sur le fait de ne pas cacher la lumière semble orientée vers une autre interprétation complémentaire. Pourquoi cache-t-on une lumière? Si on a une lumière, mais pourquoi la cacherait-on? Pourquoi? Si ce n'est parce qu'on n'a pas vraiment envie que cette lumière soit vue par tous. Ah ouais. Peut-être parce qu'on préfère cacher certains actes peu glorieux plutôt que de s'exposer en pleine lumière aux yeux de tous. Alors relisons la version de Marc, la version que donne Marc de cette métaphore en ayant cette pensée à l'idée. Jésus leur dit, quand quelqu'un apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau, hein, c'est notre version, ou sous un lit, au contraire, il la place bien en haut. Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Et il ajoute donc d'autres paroles. Hein, on vous mesurera dans la mesure dont vous mesurez, etc. Alors, il y a bien ici une formule qui évoque le jugement dans ce contexte. Hein, le jugement. Hein. Il y a bien une formule qui évoque le jugement où chacun aura à rendre compte de ses actes, y compris ceux qu'on a voulu cacher. On a voulu cacher des choses. Un jour, on ne pourra plus y cacher, tout sera mis en pleine lumière. Donc ça veut dire qu'il y a dans notre vie des lumières qu'on est prêt à faire briller, à laisser briller. La lumière qui met un peu l'accent sur notre ego, sur ce qu'on a fait, sur notre piété. Et puis il y a d'autres lumières qu'on préfère cacher. Et cette lumière qui met l'accent sur les choses dans notre vie, les domaines où on n'est pas, où on ne pense pas être à la hauteur. Et la question que nous devons entendre est donc celle-ci. Dans ce monde où nous vivons, en attendant le jugement de Dieu, de quel genre de lumière brillons-nous? Quel genre de lumière voulons-nous, de quel genre de lumière voulons-nous briller? Alors il ne s'agit pas d'être une lumière aveuglante, comme une lumière aveuglante qui cherche à en mettre plein la vue aux autres. C'est un peu les pharisiens, vous vous souvenez, dans l'évangile de Matthieu d'ailleurs, qui en mettent plein la vue aux gens par leur piété. Quand ils priaient, ils faisaient sonner la trompette, quand ils faisaient des aumônes surtout, la trompette, et pour tous leurs actes de piété, c'était comme ça. Jésus, et donc ils ont, par leurs actes, ils disent « Regardez comme je suis bien, comme je suis spirituel, comme je suis épanoui dans ma foi, moi, comme je suis bon, moi, comme je suis généreux, moi, envers les autres, plus que les autres. » Et donc dans les évangiles, c'est exactement l'attitude superficielle que Jésus dénonce chez les pharisiens. Donc ce n'est pas ainsi que le Christ, qui est la véritable lumière du monde, a vécu cela. Jésus, véritable lumière du monde, est venu, il est venu humblement en serviteur. C'est là-dessus qu'on va insister ce matin. Certes, il a brillé un peu fort à certains moments de sa vie. Il a brillé un peu fort quand il accomplissait des miracles, mais c'était pour glorifier son Père, pas pour lui, et pour annoncer l'Évangile. Il a brillé un peu plus fort le jour de sa résurrection éclatante, qui a remporté la victoire sur la mort et qui a mis en valeur la vie et l'immortalité par l'Évangile. Mais la plupart du temps, la lumière de Jésus dans l'Évangile était douce, remplie d'humilité. Elle était bienfaisante. Et donc c'est cette lumière-là qu'on va essayer de mettre en avant ce matin, avec des applications dans nos vies. Et en reliant donc ce verset où Jésus parle de lumière, en le reliant à Marc chapitre 15, 10, verset 45, où Jésus dit « Je suis venu pour servir ». Et en Marc 10, 45, il dit « Le Fils de l'homme ». Donc on a dit c'est un titre qui met en valeur son humanité, mais aussi sa divinité. « Le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais non pas pour être servi, mais pour servir, je veux dire, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc, je suis venu pour servir, dit Jésus. Et Marc, l'évangile de Marc met en avant l'aspect service de Jésus. Chaque évangile met en avant un aspect de la personne, de l'œuvre de Jésus. Matthieu, c'est le roi, Luc, c'est la compassion, Jean, c'est la divinité. Mais Marc, c'est plutôt l'aspect service. Marc a voulu montrer Jésus sous les traits d'un serviteur. Quand nous comprenons cela, nous comprenons pourquoi Marc n'a pas dit certaines choses. Certains disent, en Luc, on parle de la naissance de Jésus, en Matthieu, on parle de la naissance de Jésus. Et même Jean parle de la vie de Jésus depuis toujours, puisqu'il est Dieu. Mais Marc, eh bien, il commence tout de suite par le ministère de Jésus à 30 ans. Mais on comprend pourquoi, puisque son but, c'est de présenter Jésus en tant que serviteur. Pourquoi parler de la naissance virginale? Et pourquoi parler de la naissance du Seigneur? C'est très significatif, il n'a pas besoin d'en parler, parce que les origines d'un serviteur, on ne s'y intéresse pas. Personne, en effet, n'est intéressé par les origines d'un serviteur, on s'intéresse à son service. Et il a commencé véritablement son service par son ministère à 30 ans. Il n'est pas question non plus dans Marc de la visite des mages, des sages venus d'Orient. On ne rend pas hommage à un serviteur. Donc Marc n'en parle pas. Et un terme fréquent dans Marc, c'est le mot évangile, bonne nouvelle, annonce de l'évangile. Il revient plus souvent dans Marc que dans tous les autres évangiles, qui sont plus longs par contre, parce que le travail d'un serviteur, du serviteur, du Seigneur, Jésus, c'est de porter cette bonne nouvelle. Et un autre terme fréquent dans l'évangile de Marc, c'est le terme « euthéos ». Ce n'est pas pour faire du grec, mais c'est pour dire que c'est un mot qui veut dire « aussitôt ». Aussitôt, à l'instant même, au même instant, partout il y a ce mot. Parce qu'un serviteur, il enchaîne. Il enchaîne les actions. Et ça revient plus de 40 fois chez Marc. Et le mot kai aussi, le mot et, il fit ça, et puis il fit ça, et puis il fit ça. Et chaque fois, mais parce que ça montre la vie de service ininterrompue hein, que j'ai le Seigneur a eu. C'est le terme, donc, c'est des termes dus au service du serviteur. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est là le cœur de l'Évangile. Dans cette citation, le message est clair. C'est pour sauver les hommes que Jésus, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, a donné sa vie. Alors, celui que Dieu donc a offert au monde pour le salut n'est pas venu pour déployer la force du Tout-Puissant en écrasant ce qui s'opposerait à sa volonté. Il n'est pas venu imposer son règne par la force, alors que des gens de sa génération rêvaient ça. Il n'a pas usé de la contrainte non plus pour s'imposer. Il n'a fait de violence à personne. C'est ce qui est dit en Ésaïe 42 qu'on a lu il y a 15 jours. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon Dieu, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix. Il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit encore. Il révélera le droit selon la vérité, il ne faiblira pas, il ne s'esquivera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les nations païennes s'attendent à sa loi. Et donc le Dieu créateur des cieux et de la terre a voulu nous rencontrer simplement, humblement, doucement, sous les traits d'un homme sans prestige. Et il y a ce texte d'Ésaïe 53 qu'on a lu aussi dans une étude biblique. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne, nous ne l'avons pas estimé. Ésaïe 53, 2 et 3. Donc, si on ramène tout ça à ce verset qu'on a lu aussi mercredi, le jour de Noël, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et cela sera un signe, vous trouverez un nouveau-né embailloté et couché dans une mangeoire d'animaux. Luc 2, 12. On voit que la boucle est bouclée. Quel endroit, en effet, quel endroit surprenant pour le Messie de naître qu'une étable. Quel endroit surprenant qu'une étable pour la naissance d'un roi, du Messie annoncé. Après un voyage difficile pour une femme dans son 9e mois, une étable est le dernier endroit qu'un mari plein d'attention et bien intentionné puisse souhaiter pour son épouse et bien-aimée. Et les scènes de la nativité qu'on lit à Noël ou dont on entend des résumés, ne sont pas exactes, parce qu'il manque l'odeur. Aucune d'entre elles ne restitue, par exemple, la juste odeur. Aucune ne traduit le manque d'hygiène de la situation pour un nouveau-né. De la paille qui jonche le sol d'une étable, cette paille n'est pas, et est très rarement, on va dire, aseptisée. Les fonds et les bords d'une mangeoire, lustrés par la salive animale, ne répondent pas aux normes habituelles pour un berceau. Voilà une naissance qui ne pouvait impressionner ni menacer grand monde. La plupart des gens pouvaient même se vanter, même à l'époque, de meilleures circonstances de naissance. C'est vraiment le bas du bas. Et pourquoi est-ce qu'on ne cite pas ce texte plus souvent dans l'année? Ça nous remettrait peut-être un peu en place. On ne cite ce texte saisissant, on ne cite que auréolé de tout un fatras de luminosité de Noël, pour oublier ce texte tout au long de l'année ensuite. Pourtant, ce texte et les textes semblables montrent un renversement complet par rapport à ce qui se fait dans le monde, par rapport aux normes de ce monde. Alors que les hommes cherchent à en imposer aux autres, à s'imposer aux autres, à se servir des autres, à asservir les autres, ici, il nous est montré tout autre chose. la figure du serviteur de Dieu, du serviteur du Seigneur qui est le Messie, et l'interrogation la plus radicale qui puisse être adressée au monde, bien sûr, mais aussi à chaque chrétien et à l'Église. Alors à chaque chrétien, cette figure du serviteur nous invite à vivre du Christ. Jésus avait un esprit de service, on a dit. On le voit dans la vie simple qu'il a menée, et on le voit donc aussi, comme on l'a dit, dans la famille dans laquelle il est né. Il est né dans une famille modeste. Bien sûr, cette famille descendait de David, mais comme dit le prophète Amos, à l'époque, à l'époque qui nous concerne, la lignée de David, le palais de David n'était plus qu'une cabane. Il parle de la cabane de David, qui était la lignée de David. La lignée de David était dans un pauvre état. Donc il naît dans une vie simple, on le voit dans une vie simple, on le voit dans une famille modeste, et au cours de son ministère, il dépendait de la générosité, de l'hospitalité des gens qu'il croisait. Mais surtout, l'esprit de service de Jésus s'est manifesté par son incarnation elle-même. Comme le dit l'apôtre Paul dans ce formidable hymne dont on a lu il y a 15 jours une version rimée en Philippiens 2, 5-8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant alors obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. » Le Fils de Dieu, glorieux, éternel, a quitté les richesses infinies du ciel pour venir sur terre humblement, en serviteur, mourir sur une croix le plus affreux des châtiments. Il a choisi la voie de la pauvreté, de la simplicité, il a choisi l'humilité. Et pour cela, il est dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Alors, il y a au moins trois choses dans ces mots. Il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire tout d'abord qu'il a restreint volontairement, bien sûr, sa puissance, les effets de sa divinité qui étaient à sa portée à tout moment. Il restait Dieu, pleinement Dieu. Mais il a restreint volontairement sa puissance. Deuxièmement, il a accepté l'épreuve, l'isolement, les mauvais traitements, la méchanceté, l'incompréhension et finalement la mort, comme on a dit, une mort accompagnée de souffrances spirituelles infiniment plus douloureuses que toutes les souffrances physiques. Et puis troisièmement, il a aimé jusqu'à l'extrême. C'est aussi ça, ça fait partie aussi de son dépouillement. Il a aimé jusqu'à l'extrême des hommes et des femmes qui ne méritaient pas son amour. Tout cela afin de nous enrichir par son dépouillement. C'est ce que dit Paul en 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre. Il s'est dépouillé donc, afin de vous rendre riche par sa pauvreté, par son dépouillement. Et donc, nous voyons cet esprit de service à l'œuvre dans Jésus. Et l'esprit de service, c'est l'esprit aujourd'hui, c'est l'esprit de ceux qui, comme leur maître, passent toute leur vie à se dépouiller et à s'appauvrir en dépensant pour les autres et en se dépensant pour les autres. Nous vivons dans un monde où même les chrétiens, et leur rêve, c'est de vivre tranquille toute leur vie, en vivant pour eux et en se faisant une petite vie bien tranquille et sans problème. L'esprit de service, c'est comme Jésus, passer sa vie à se dépouiller, à s'appauvrir en se dépensant pour enrichir son prochain. Alors on le fait en offrant son temps. On le ferait en ne ménageant ni sa peine, ni ses soins pour faire du bien aux autres. Et pas seulement à ses amis qui vous le rendront, comme dit Jésus, mais même à ceux qui ne le rendront pas. Alors, c'est du reste intéressant que ce texte de 2 Corinthiens 8, que Paul écrit, c'est intéressant de noter que Paul dit cela dans un contexte où il fait appel à la générosité des chrétiens. une générosité en faveur d'autres églises, de l'église de Jérusalem, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, la Grèce, enfin plutôt la Grèce et la Palestine, la Judée. Il y a une Méditerranée entre eux. Ils sont loin, mais ils sont frères et sœurs. Et Paul appelle à la générosité de ces chrétiens macédoniens et grecs en faveur des chrétiens de Jérusalem, juifs, donc touchés par la famine. Et il fait appel à une collecte de fonds qui sera transmise par leur intermédiaire, comptée, transmise et bien amenée à Jérusalem. Alors, ça veut dire que cet esprit de service que le Seigneur nous appelle à rechercher en tant que disciples du Christ, si nous sommes disciples du Christ, interpelle notre rapport aux richesses aussi. Ça interpelle notre rapport aux richesses. Et donc cet esprit de service, c'est un appel à partager plutôt qu'à garder pour soi. Un appel à donner plutôt qu'à recevoir toujours. Un appel à vivre de sa grâce, à suivre l'exemple du Christ qui s'est appauvri pour nous rendre riches des vraies richesses, héritiers du royaume de Dieu. Donc tout ça interpelle notre vie chrétienne, notre façon de vivre à la manière du Christ. Mais l'Église est interpellée également par cet esprit de service du Maître. C'est elle, c'est-à-dire nous qui faisons l'Église, qui résonne trop souvent en matière d'influence, de prestige, de moyens financiers, de moyens techniques ou intellectuels, d'actes de puissance, au risque de perdre son témoignage parce qu'elle reste conforme aux normes et aux valeurs de ce monde, où tout est comptabilisé en termes de puissance et de prestige. Il s'agit donc pour l'Église, en méditant sur la figure de Jésus comme serviteur, comme nous le présente Marc, de convertir nos propres mentalités avant de prétendre convertir les autres. Que dit par exemple Pierre, dont on avait lu l'Épître il y a quelques années, en 1 Pierre 4,10, seulement ce verset. Il parle des dons spirituels, des charismes, et il dit, 1 Pierre 4,10, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu, qu'il exerce au service des autres. » Alors, qu'est-ce que dit Pierre ? Eh bien, à quoi il exhorte ? Eh bien, il exhorte à voir les choses dans une perspective de service. Il nous invite à ne pas nous auto-centrer, nous centrer sur nous-mêmes, mais à nous centrer sur les autres. C'est une révolution qu'il faut sans cesse faire et refaire. Évidemment, c'est toujours intéressant et même légitime, dans une certaine mesure, de se demander « mais quelles sont mes capacités ?» quels sont mes dons, quel est mon appel particulier. Mais on peut aussi réfléchir, et c'est beaucoup plus important, réfléchir différemment et se demander quels sont les besoins autour de moi. Voilà la bonne question qu'on veut tous se poser en cette fin et en ce début d'année. Quels sont les besoins autour de moi ? Comment je pourrais me mettre au service des autres ? Ah, ça ne vient pas immédiatement à notre esprit, ce genre de questions, Au lieu de se centrer sur soi-même et de chercher à s'épanouir dans ses capacités, ce texte nous invite à nous centrer sur les autres et à chercher à nous mettre à leur service. Il y a beaucoup plus de joie à faire ça qu'à faire la première chose. Jésus-Christ lui-même ne s'est-il pas fait serviteur ? N'a-t-il pas renoncé à sa gloire, à ses droits, à ses privilèges de fils de Dieu en devenant homme ? Semblable à nous et en prenant la forme d'un serviteur jusqu'à la mort sur la croix. Ne sommes-nous pas appelés à vivre à sa suite comme serviteurs les uns des autres ? C'est ça être chrétien, vivre à la suite de Jésus. C'est là que se trouve donc la clé pour la vie chrétienne, mais aussi la clé, comme je viens de dire, la clé de la vie de l'Église. La clé d'une vie d'Église épanouie, mais c'est ça. Et c'est l'esprit de service. Pour que chacun trouve sa place. La clé, c'est l'esprit de service. Il n'y a pas d'autre clé. Et cette clé, elle ouvre toujours, hier comme aujourd'hui, hein, la porte d'une vie d'église épanouie. Alors bien sûr, la bonne volonté ne suffit pas toujours. Il y a certains services qui nécessitent des dons, des compétences. Vous n'allez pas rejoindre le groupe de chant si vous chantez comme une casserole. Et encore, ça s'améliore, croyez mon expérience personnelle. Et puis vous n'allez pas rejoindre le groupe des présidents de culte si à la seule idée de monter sur l'estrade, ça vous fait tomber dans les pommes. C'est pas le moment. Hein. Mais il y a quantité de services faits pour vous. Hein. Il y a quantité de services, notamment pratiques, qui ne nécessitent pas de compétences particulières. Tout ce que ta main fait, tout ce que ta main trouve à faire, avec la force que tu as, fais-le, nous dit l'Ecclésiaste. Et il y a beaucoup de domaines où on peut apprendre, heureusement, et où on peut se former. Il s'agit donc au minimum d'intégrer les besoins autour de nous dans notre réflexion. Notre place dans l'Église ne dépend pas que de nos inspirations, que de nos capacités. Elle dépend aussi des autres et des besoins de la communauté tout entière. Souvent, l'Église est perçue comme un prestataire de service. On s'attend à ce qu'elle nourrisse les autres, à ce qu'elle nous apporte du réconfort, peut-être même l'épanouissement, c'est le grand mot d'aujourd'hui. On évalue une Église sur sa capacité à répondre à nos besoins, à nos attentes. Or, nous devrions voir l'Église non pas comme un prestataire de service, mais comme une communauté de serviteurs. L'Église est une communauté de serviteurs. Nous sommes invités à ne pas nous auto-centrer, mais à nous centrer sur les autres. Et tout le monde y trouvera son compte. Nous les premiers d'ailleurs, si le service est vécu dans la réciprocité. Alors, en résumé, quelle est ma place dans l'Église ? Eh bien, celle du serviteur, au même titre que tous les autres. Nul n'est indispensable, sinon le Christ. Chacun pour sa part contribue à l'identité, mais chacun pour sa part contribue à l'identité et au charme du corps qu'est l'Église. Et c'est ensemble que nous pourrons être de bons économes de la grâce de Dieu infiniment varié, en mettant en valeur toutes les pièces du trésor que nous formons par la grâce du Seigneur. Alors je termine en disant que non seulement Jésus était non seulement tout ça, mais Jésus aussi, c'est un aspect du Nouveau Testament, Jésus nous est présenté comme le serviteur de son peuple, non seulement lorsqu'il vivait sur terre, mais aujourd'hui, à la fin des temps et aujourd'hui. Jésus est présenté comme le serviteur dans l'Évangile, mais il ajoute qu'à la fin des temps, il servira son peuple. Luc 12, 37, « Heureux les serviteurs du Maître à son retour, et heureux ces serviteurs que le Maître à son retour trouvera veillants. Je vous le dis, il se scindra, il les fera mettre à table, il mettra sa tenue de service, il les fera mettre à table et s'approchera d'eux pour les servir. » C'est magnifique ça. Jésus dit qu'à la fin des temps, lors de son retour, il va servir ses serviteurs fidèles. Et non seulement ça, mais je crois que tout le Nouveau Testament nous montre que Jésus est notre serviteur maintenant, pas seulement à la fin des temps, pas seulement il y a 2000 ans pendant son ministère, mais maintenant. Hébreux 13, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours à moi. Je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme ?» Est-ce que ça dire que Jésus a été et sera à jamais et qu'il est aujourd'hui le serviteur de son peuple, est-ce que ça rabaisse le Christ ressuscité ? Je ne crois pas. Ce serait le cas si serviteur, ça voulait dire celui qui reçoit des ordres, celui qu'on commande. Ou si nous pensions être ses maîtres. Là, oui, ça le déshonorerait. Mais cela ne déshonore pas Jésus de dire que nous sommes faibles et que nous avons besoin de son aide. Ça ne déshonore pas Jésus de dire qu'il est le seul à pouvoir nous servir en nous offrant ce dont nous avons le plus besoin. Ça ne déshonore pas Jésus de dire qu'il est la source inépuisable d'amour, et que plus il nous aide, plus nous dépendons de son service, plus ses ressources se révèlent être inépuisables. Par conséquent, nous pouvons dire en toute confiance, Jésus-Christ est vivant aujourd'hui pour servir. Il est vivant pour sauver, il est vivant pour donner, il est vivant pour servir. Et il est ravi, hein. Il est heureux, hein, que ce soit ainsi. Hein. Il n'est pas accablé, Jésus, par nos soucis. Hein. Il s'épanouit en portant nos fardeaux. Lui-même a dit, hein, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous soulagerai. » C'est une parole vraie encore pour aujourd'hui. D'autres paroles de l'Ancien Testament vont dans ce sens. Hein. Il présente, hein, le Seigneur comme celui qui aime à travailler pour ceux qui se confient en lui, Ésaïe 64. Il aime ceux qui espèrent en sa bonté, Psaume 147, etc. Hein. Dieu aime ceux qui espèrent en lui, qui s'attendent à lui, hein, qui viennent à lui, hein, avec les mains vides, hein, pour réclamer son aide, sa force, son amour. Hein. Donc Jésus-Christ déborde d'un service omnipotent, hein, pour tous ceux qui lui font confiance, hier comme aujourd'hui. Hein. Alors la première conclusion qu'on peut faire, bien sûr, hein, c'est de ramener ce texte à la lumière, Jésus de la lumière. Nous sommes lumière du monde si notre vie reflète un peu du service du Christ. Si elle reflète un peu la lumière que le Christ est venu apporter, l'esprit de service du Christ. Hein. Si notre lumière est douce, si notre lumière est humble, si elle rassure, si elle réchauffe, si elle apaise, à l'exemple de la lumière de Jésus. Mais on peut dire une autre conclusion. Si Dieu, dans sa grâce, nous revivifie spirituellement, une des œuvres qu'il va accomplir, certainement, sera de susciter en nous davantage de cet esprit de service, de cet esprit de serviteur. Si nous désirons être renouvelés spirituellement, il est une chose que nous devrions faire, chercher à développer en nous cet esprit de service. Tout passe par là. Et je vous laisse deux versets. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2. On peut le mettre en grand, hein, sur son frigo. Hein. Puis un autre verset, du psaume 119, verset 32, qu'on a étudié aussi en études bibliques cette année. Je cours, hein, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Si on veut avancer dans l'obéissance, eh bien, Dieu va élargir notre cœur. Et parce que Dieu élargit notre cœur, nous pouvons avancer avec confiance, hein, dans la voie de ses commandements. Dieu sera notre aide, hein, et nous donnera la force, hein, pour avancer sur ce chemin de l'obéissance et du service. Amen.